Bonjour, aujourd'hui, les dieux grecs.
Le corps hellénique est d'un même sang, parle la même langue, a les mêmes dieux, les mêmes temples et les mêmes sacrifices. Hérodote.
Ans d'histoire. Parce qu'ils étaient des paysans et des marins, les Grecs éprouvaient une crainte superstitieuse devant les phénomènes naturels. Pour mieux les comprendre et les prévoir, ils donnèrent un nom et un visage au tonnerre, aux tempêtes, à la pluie ou à la sécheresse, inventant ainsi une des religions les plus étranges de l'histoire. Une religion sans texte sacré et sans dogme, avec des dieux si proches des hommes qu'ils éprouvaient les mêmes sentiments et les mêmes passions que les communs des mortels. Ils étaient coléreux et lubriques comme Zeus, bons vivants comme Dionysos, sages comme Athéna, ou jaloux comme la femme de Zeus, Héra. Et si depuis Homère, les dieux de l'Olympe, leurs muses, les titans, les chimères ou les héros de la Grèce nous fascinent encore, c'est parce qu'ils nous ressemblent. Mais c'est aussi parce qu'en voyant les ruines de leurs temples à Delphes, à Athènes et tout autour de la Méditerranée, nous savons tout ce que notre civilisation doit à la Grèce, à l'époque où du haut de l'Olympe, le roi des dieux Zeus décidait du destin des hommes.
Un millier de temples, de statues, de sanctuaires qu'on les consacre à moi, ou à toi, Héra, ma femme, ou à Thétis, ravissante déesse de la mer, ou à toi, Athéna, si sage, énergique et vaillante, ou à Aphrodite, déesse de l'amour, ne sont rien. Rien ne fait pardonner ou n'efface ce misérable crime, cet acte répugnant. Écoute, Poséidon, je t'ordonne de déchaîner les vents et les flots. Détruis Argos. Et pour être sûr que tout s'écroulera, que tous les êtres seront anéantis, je t'ordonne, Poséidon, de libérer le dernier des titans. Il faut que le royaume d'Acrisios soit détruit.
Des ordres seront exécutés.
Odile Vatel, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Armand Collin un petit livre sur les religions grecques et romaines, mais est-ce qu'on peut parler de religion alors que ni chez les Grecs, ni chez les Romains, il n'y avait pas de texte sacré, pas l'équivalent de la Bible ou du Coran, il n'y avait même pas de dogme?
Alors, disons que la religion grecque, effectivement, c'est une erreur de langage, car le mot religion n'existe pas en grec. Vous avez simplement le mot chose sacrée, bon, dira, chose divine, tateia, peu importe, mais il y a une religion, disons, très proche tout de même des hommes, dans la mesure où les dieux sont des créatures et non des créations.
Mais il y a une différence aussi, il y a une différence, vous le dites, c'est que toutes les religions ont pour objectif d'assurer le salut individuel, beaucoup, en tout cas les religions monothéistes. Dans le cas des Grecs, pas du tout, vous dites que c'était une nation parfaitement étrangère à la notion de salut individuel. C'était le salut collectif qui comptait, c'était le salut de la cité en fait.
Oui, disons quand même qu'ils ont le sens du sacré, c'est-à-dire que le mot profane n'existe pas non plus en grec, tout est sacré. C'est aussi bien dans la vie quotidienne que dans la vie politique, il faut bien le dire. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la pire des souillures, c'est d'être absolument profane. Et je crois que ce qui les réunit tous, ce sont, bien sûr, deux histoires saintes, c'est-à-dire l'Iliade et l'Odyssée que vous avez citées, et la Théogonie d'Hésiode, des textes anciens du 8e siècle, mais qui ont été transmis et qui ont d'ailleurs...
Qui viennent d'où, justement?
Enfin, en fait, c'est la tradition, orale. Je parle des textes, c'est la tradition orale. Bon, les dieux grecs, eh bien, ils sont issus de ce qu'on pourrait appeler la Genèse, c'est-à-dire de Chaos, hein, qui est en fait le Béance, de la Terre, Gaïa, c'est Jean-Pierre Vernant qui en parle d'ailleurs beaucoup mieux que moi.
Et, Chaos, c'était au fond le Big Bang, quoi.
Le Big Bang, exactement. Et en fait, la force de Zeus, c'est d'avoir sublimé, surmonté ces forces qui étaient assez inquiétantes, et en particulier d'avoir dominé les titans, Chronos, et en quelque sorte d'avoir, après, dans un deuxième temps, régné sur la création.
C'est et ça, c'est, oui. Et c'est ça, ça, c'est tout ce que Homère raconte, hein. C'est quand même, il y a presque 3000 ans, hein.
Oui, c'est ça.
Mais les dieux sont antérieurs. Je vous propose d'écouter justement le portrait des dieux grecs vu par Homère, la revue de texte Stéphanie Duncan.
Oui, justement, les dieux grecs tels que les présente Homère nous ressemblent étrangement, hein, charnels, sexués, amoureux, jaloux, aimant boire et manger, des humains, quoi. Des humains assez privilégiés tout de même, hein. Ils vivent dans un très beau cadre, d'abord, en Grèce déjà, vous me direz, et plus précisément sur l'Olympe. C'est là, dit Homère, où les dieux, loin de toute secousse, ont leur siège éternel. Ni les vents ne le battent, ni les pluies ne l'inondent, là-haut, jamais de neige, en tout temps, l'éther, donc le ciel, déployé sans nuages, couronne le sommet d'une blanche clarté. C'est là-haut que les dieux passent dans le bonheur et la joie tous les jours. Un petit détail tout de même, les dieux n'ont point de sang, nous dit Homère, mais liqueur, un sang immortel.
Liqueur.
Oui, c'est l'apostrophe I-K-H-O-R. Voilà, ça dépend comment on l'écrit. Ouais. De plus, ils ne mangent pas le pain et ne boivent pas le vin au sombre feu. Mais dans cette éternité qui n'en finit pas, et même s'ils ne boivent pas de vin, ces dieux ne s'ennuient pas. La déesse Héra versa l'ambroisie aux autres dieux. Donc l'ambroisie, c'est le dieu des, c'est le vin des dieux. Voilà, le nectar. Les dieux bienheureux se mirent à rire, ce fut ainsi jusqu'au coucher du soleil. Ils festoyèrent et le désir trouva son compte dans un grand repas, assurément aussi dans la lyre de toute beauté que tenait Apollon et dans les chants des muses. Ah, Héra aime s'amuser, hein, on l'a vu, et comme une femme aussi, elle aime être belle. Héra, dit Homère, se vêt d'une robe divine qu'Athéna a faite pour elle. Avec des attaches d'or, elle l'agrafe sur sa gorge. Au lobe de ses oreilles, elle enfonce des boucles de la grosseur d'une mûre où éclate un charme infini. Enfin, elle se couvre d'un voile tout neuf, blanc comme le soleil. À ses pieds luisants, elle attache de belles sandales. Mais le grand chef, c'est bien sûr Zeus, hein, qui est son frère et son époux à la fois. Hein. On ne se gêne pas avec ça. Un époux pas très fidèle avec lequel Héra erra à la tête de génisse, comme dit Homère, à de fréquentes scènes de ménage. Fourbe, lui dit-elle, tu aimes toujours les pensées secrètes, dis-moi ce que tu as dans l'esprit. Et Zeus lui répond, Héra, dispense-toi de questionner et d'enquêter, assieds-toi en silence, obéis à mes ordres. Mais de temps en temps, tout de même, ils se réconcilient. Héra, dit Zeus, viens, goûtons à deux amoureusement les joies du lit. Jamais encore le désir d'une déesse ni d'une femme ne vint dans ma poitrine envelopper ainsi mon cœur. Pas même pour Danaé aux belles chevilles, ni pour Déméter aux belles tresses, ni pour la merveilleuse Leto. Ah, Héra se méfie un petit peu hein, de cet empressement soudain. Elle n'a pas envie de faire l'amour là devant tout le monde, devant les yeux. N'aie pas peur, lui répond Zeus. Aucun des dieux ni des hommes ne nous verra. Zeus saisit sa femme dans ses bras. Sous eux, la terre divine fit pousser une jeune herbe verdoyante, le lotus couvert de rosée et le safran et la jacinthe en couches épaisses et moelleuses. Ils s'y couchèrent et sur eux posèrent le vêtement d'une belle nuée d'or. Une rosée tombait, resplendissante.
Plutôt marrant, hein, ces dieux, Odile-Vatel, ce texte, évidemment, oui, c'est de Homère. Mais,
c'est la période la plus amusante, effectivement, de l'histoire religieuse, qui est celle donc de l'époque mycénienne, c'est-à-dire qu'il y a des liens entre ces dieux d'Homère et les dieux de l'époque mycénienne, donc 12e siècle, même si la tradition orale d'Homère remonte au 8e siècle. Il y a un décalage entre l'histoire et le mythe.
Pas très moraux non plus. Cela dit, la religion des Grecs, contrairement aux chrétiens, contrairement aux musulmans, elle n'est pas destinée à
imposer une morale, tout au moins jusqu'à l'époque classique. Le terme de Dicée n'apparaîtra qu'à l'époque classique, je vous en reparlerai peut-être tout à l'heure. Mais à cette époque, on peut dire qu'il y a un anthropomorphisme des dieux. Alors d'ailleurs, ils font la navette constamment entre le ciel et la terre. Quand Zeus a repéré une charmante petite, une mortelle comme Europe, comme Danaé, que vous citiez, il est bien évident qu'il se métamorphose pour échapper à la jalouse Héra et va créer d'ailleurs une dynastie d'enfants qui seront des demi-dieux. C'est lui qui est à l'origine des héros.
Ils sont très humains. Ils sont très humains, on vient de l'entendre. Qu'est-ce qui les distingue des hommes, hein? Vous dites qu'ils sont plus grands, plus forts, qu'ils voyaient plus loin, leur voix portait plus loin. Parce qu'il y a un héros, pas un dieu, mais il y a Stentor qui parlait très loin. C'est un héros de la guerre de Troie, la voix de Stentor.
Alors, ce qui les distingue d'abord, c'est qu'ils sont immortels, puisque finalement, ils ne sont pas atteints par la vieillesse, ni par la maladie, ni par la mort. Ils peuvent néanmoins être blessés. Et on sait qu'il y avait un médecin de l'Olympe. Ce qui nous gêne un petit peu, c'est qu'ils ne sont pas éternels. Et c'est Aristote qui le premier disait, je ne comprends rien. Ils sont immortels, mais ils ne sont pas éternels. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas créé l'univers. Mmh. Vous voyez, c'est ça la seule nuance. Mais c'est vrai qu'ils sont en plus une autorité, une référence. Et ce qui les distingue des hommes, c'est que les hommes font appel à eux à haute voix,
et puis
en
vous
permanence.
L'avez... Et puis vous l'avez dit, ils avaient la faculté de se rendre invisibles, de se métamorphoser. Aussi. Donc, un don que Zeus utilisait pour séduire toutes les femmes, comme Danaé, dont le fils Persée fut victime de la vengeance de la femme de Zeus, Héra.
Tu l'as déposée à moitié nue dans une cité étrangère, au désespoir.
Un hasard?
Rien à voir avec le hasard, et tu le sais. Il s'agit bien d'un acte méchant et calculé, que je trouve indigne d'une déesse.
Tout ça pour l'amour de Danaé. Oui, un si grand nombre de femmes, et toutes les métamorphoses, et toutes les ruses qu'il invente, dans l'intention de séduire ces femmes, il apparaît en taureau, en pluie d'or, en cygne. Tenez, une fois, il a même essayé de m'enlever, s'étant déguisé en poisson. A-t-il réussi? Sachez que non.
Il a renoncé.
Je l'ai pris à son jeu. Je me suis métamorphosée en requin.
C'était un extrait du film Choc des Titans, une scène de ménage sur l'Olympe. On se disputait beaucoup sur l'Olympe,
oui.
Notamment parce que les dieux prenaient parti dans les conflits des hommes. Hein. La guerre de Troie, il y avait des
dieux.
Il y a
deux camps, les Achéens,
pour les Achéens, l'autre pour les Troyens. Zeus était au-dessus de tout
voilà,
ça.
Voilà, heureusement.
Mais
oui.
Vous dites, c'est assez étonnant, c'est comme un parlement, l'Olympe, il y avait une majorité, une opposition.
Alors là encore, c'est le reflet de la monarchie mycénienne ou civilisation achéenne, dans un terme, dans un sens plus large, où il y a effectivement un souverain qui est à la tête de ce qu'on appelle un oïkos, qui est une sorte de famille élargie. Ce souverain a son autorité sur les autres rois qui sont un petit peu moins importants, et nous avons dans l'Olympe le reflet de cette société royale ou cette société monarchique archaïque.
Oui, parce qu'il y avait une hiérarchie, hein, Odile Vatel, vous rappelez qu'il y avait les 12 dieux de l'Olympe.
Oui, ceux qui font vraiment Zeus, le conseil étroit, voilà. Si je peux dire, autour de Zeus.
On les rappelle brièvement, Zeus, le roi des dieux, son messager Hermès, Héra, la femme de Dieu,
oui,
Apollon, dieu du soleil.
Le dieu Héphaïstos,
voilà, Aphrodite, l'amour, chaque sentiment humain, chaque phénomène naturel, chaque activité humaine avait son dieu, en fait.
Oui, oui et non, parce que finalement, il y a simplement des signes extérieurs de la présence divine, parfois. Ils ne sont pas obligés, bon, bien sûr, les trois, c'est le ciel, c'est Zeus, la mer Poséidon, le mot de souterrain, c'est Hadès, bon. Mais il y a des divinités, par exemple, qui passent d'un domaine à un autre. Je pense à Hermès, qui est le messager, donc qui passe son temps entre l'Olympe et la Terre. Dionysos lui-même, on dit qu'il est de nulle part et de partout. C'est la même chose, on l'utilise, vous voyez, dans cette fonction qui est celle tout simplement d'une sociologie, d'une hiérarchie de l'Olympe, avec une société à l'image de ce que l'on peut rencontrer dans les palais mycéniens ou achéens.
Puis au-dessous des dieux, il y a les héros, on les confond souvent avec les dieux, voilà. Il y a Hercule, il y a Thésée, il y a Oedipe,
voilà. Alors,
il y a
les héros. On peut dire que c'est la catégorie inférieure, mais néanmoins, ils sont généralement des demi-dieux. Ils ont un statut spécial, donc après leur mort, ils sont tout de même honorés, sacrés. Alors ces héros, on pourrait citer, bien sûr, vous avez parlé de Jason, mais il y a également Thésée. Alors qu'est-ce qui en fait des héros? Parfois, certains, parce qu'ils ont fondé une ville, je pense Thésée a fondé Athènes, c'est un cas. Jason, c'est la même chose, parce qu'il est allé rechercher cette fameuse toison d'or, et que même si ça s'est très mal terminé avec Médée.
Puis il y a les titans aussi, hein. Il y a Cronos, il y a Prométhée, hein, qui a voulu dérober le feu du ciel pour le donner aux hommes.
Prométhée est à l'origine de la création de la femme, de Pandore, comme vous le savez, puisque... Zeus était furieux, il avait caché le feu, et Pandore a été une création de l'ensemble des 12 dieux, de cette communauté des 12 dieux qui a dit on va se venger, et on va créer la femme, et Héphaïstos lui a donné un corps, Athéna lui a donné une robe, et c'est en même temps Hermès qui lui a donné, si je peux dire, la malédiction, la parole, le mensonge.
Les titans, c'est un peu les rivaux des dieux, c'est un peu
alors,
les démons, Odile Vatel.
Ce sont des forces qui ne sont mal contrôlées, c'est la barbarie.
Ouais.
Et vous savez que la civilisation grecque a toujours lutté contre la barbarie, quelle qu'elle soit. Et c'est Zeus qui va justement éliminer les titans. Mm-hmm. On pourrait dire que la troisième catégorie, ce sont les daimons, c'est-à-dire les démons, les génies, avec tout ce que ça comporte d'inquiétant.
Mais alors c'est curieux, parce qu'effectivement, il y avait un enfer, il y avait le Tartare, il y avait le paradis, les Champs-Élysées, et vous dites en même temps que les Grecs ne croyaient pas en l'au-delà, vous dites que le culte des défunts n'était pas indispensable.
Alors, le culte des défunts, du moment qu'ils avaient une sépulture décente, ils ne revenaient plus importuner les vivants, c'est tout ce que l'on demandait, mais en réalité, on n'avait aucune espérance de l'au-delà, tout au moins moins à cette époque. Ce n'était pas une recherche métaphysique, si vous voulez.
En tout cas, le culte des défunts n'existait pas, même si
une fois
le culte
par an.
Des
une
dieux. Fois par an, alors, il y avait en revanche le culte des dieux, et on les célébrait en musique. Écoutez cette musique étrange, reconstituée de l'Antiquité grecque, l'hymne au soleil. C'est assez curieux.
Euphameito passai fer, que cae pontos cae pnoiai, ure a tempe asigato, echoi zongoi tornithon, meleigar pros gemas baini, foibos acersecomas euhaitas.
Écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui les dieux grecs.
C'était l'hymne au soleil par l'ensemble Atrium Musiqué, dirigé par Gregorio Paniaga, une reconstitution de la musique de la Grèce antique, faite à partir de fragments de papyrus où étaient notées donc quelques mesures, mais aussi à partir de motifs de vases et puis de reliefs. Un hymne au soleil, donc peut-être.
Apollon.
Et voilà, joué peut-être à Delphes, hein,
oui,
au sanctuaire d'Apollon, Hélios. Le dieu du soleil, c'était un des quatre sanctuaires, dites-vous, de la Grèce, avec
oui.
Corinthe, Némée et bien sûr Olympie, où il y a presque 30 siècles déjà se déroulaient les premiers jeux.
Bravo, Polydèque! Bravo, Acas.
À l'air d'Athènes, le meilleur archer de la Grèce, Euphémos de Ténarum, Spiros de Syracuse, Hercule, Hercule est ici.
C'était le premier jeu tiré d'un péplum. Premier jeu 776, il y a presque 3000 ans.
Oui, alors
c'était pas seulement une manifestation sportive, c'était aussi une manière de célébrer les dieux.
Ah bien, non seulement c'était une manière de célébrer les dieux, mais il y avait d'autres formes. C'était ce qu'on pourrait appeler la gonne, c'est-à-dire une émulation dans tous les domaines, au niveau du sport, mais au niveau des concours. Il y avait des concours de chant, des concours poétiques. C'était une véritable foire olympique. Toute la vallée de l'Altis, la forêt, était peuplée de Grecs, mais aussi de non-Grecs qui venaient assister au spectacle et qui rivalisaient chacun dans leur domaine. Mais c'est vrai que ceux qui étaient capables de remporter les jeux étaient sûrs non seulement d'avoir l'amphore avec une huile sacrée, d'avoir la couronne d'olivier à récompense, et surtout le succès retentissait sur toute la communauté. Il faut voir qu'il n'y a pas de religion individuelle. C'était toute la communauté d'où était originaire l'athlète qui en bénéficiait, indépendamment de sa propre famille.
Et toute la communauté, parce que toutes les villes de la Grèce se réunissaient, se rassemblaient. Il y avait même une trêve, elle ne se faisait plus la guerre.
Ah, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que tous les 4 ans, puisque ces jeux se relayaient tous les 4 ans, ce qui faisait que tous les ans, il y avait une manifestation panhellénique, il y avait la trêve sacrée. Et c'était fort important parce qu'on arrêtait la guerre, quelle qu'elle soit, durant cette période de 7 jours pour Olympie, 7 jours de trêve.
C'est un facteur d'unité, en fait, les Jeux Olympiques, comme d'ailleurs tous les cultes de la Grèce ancienne. C'était à l'époque où les Grecs, il ne faut pas l'oublier, commençaient à se disperser dans toute la Méditerranée, avec des colonies partout.
Éclatés en cités.
Et ils se retrouvaient à Olympie, ils se retrouvaient aussi dans d'autres sanctuaires où l'on célébrait d'une autre manière les dieux, Dilvatel.
Oui.
Delphes, par exemple.
Ah, c'est autre chose. Ça, Delphes, c'est, j'allais dire, l'ombilic du monde, grâce à l'omphalos d'Apollon. Mais Delphes, c'est surtout que l'on n'engageait aucune action depuis l'époque archaïque.
L'omphalos,
l'omphalos, c'est cette espèce d'ombilic de Bétyl qui était le centre du monde. Vous savez que le centre du monde maintenant, bon, vous avez un Bétyl sur le forum qui est romain, mais il y en avait un à l'époque, c'était le centre du monde. C'est-à-dire qu'en fait, on avait dit que tous les oiseaux avaient convergé, les aigles, en direction de cet omphalos grâce à Apollon. Eh bien, on n'entamait pas une guerre sans consulter l'oracle de Delphes, on ne prenait pas une décision politique importante comme fonder une colonie sans consulter l'oracle de Delphes, et les réponses ambiguës de l'oracle de Delphes faisaient que finalement tout le monde avait raison. Mais c'était
un peu Elisabeth Tessier, quoi.
Oui, peut-être pas. Parce que quand même, Apollon reconnaissait les siens. C'est ainsi que lorsque les Grecs et Xerxès a voulu lui-même s'emparer du sanctuaire de Delphes, eh bien c'est Apollon, dit-on, qui est sorti du temple avec toutes ses armes et qui a éliminé les Perses, l'ennemi barbare par excellence.
Et alors les villes faisaient des offrandes, je crois que chacune d'entre elles avait un temple et un trésor.
Alors voilà, non, en fait il n'y avait pas de temple. Hein. Tous les ex-voto que vous voyez le long de la voie sacrée qui monte au temple d'Apollon, dont le fameux trésor des Athéniens qui a l'allure d'un petit temple, c'était des ex-voto pour remercier d'avoir gagné la guerre, tout simplement d'avoir des fois remporté une trêve, une bataille quelconque, même moins importante, ou d'avoir tout simplement, parce qu'on pense au trésor des Athéniens, fondé la démocratie. Mmh. Et on croit maintenant que c'est tout ça, puisque c'est de 510, en liaison avec Clisthène, qui a été à l'origine de la démocratie athénienne. Mmh. Donc une façon de s'imposer par rapport à ses voisins.
En tout cas, ce culte des dieux grecs n'a pas empêché le déclin de la Grèce, oui, et oui, avec lui, la disparition de ses dieux.
Les dieux de Grèce sont cruels. Il arrivera bien un jour où on se battra d'eux.
Jason a osé parler de la fin des dieux. Et tu le laisses vivre.
Et s'il fallait que je punisse tous les blasphémateurs où irais chercher loyauté et respect.
Tu es le dieu de mon pays. Pourtant, quand toutes ces foules auront cessé de croire en toi, tu retourneras au néant.
Ils sont sympathiques, hein, ces dieux, ils acceptent même un jour leur propre disparition, apparemment. Quand est-ce qu'on peut dire que... D'abord, tout le monde n'y croyait pas, vous rappelez quand même, oui, que Socrate était très sceptique et qu'à la fin de...
Socrate, c'est 399. Oui. Alors Socrate, d'ailleurs, il a été condamné pour avoir corrompu la jeunesse en l'éloignant de la religion. Il avait simplement eu
C'est pas le prétexte officiel.
Ouais, bien, oui, en fait, voilà. Il avait simplement eu le malheur de dire « connais-toi toi-même », personne n'a rien compris, que cela voulait dire « prends conscience ». Que tu es mortel. Mmh. Alors là, c'est la parole profane par excellence. Donc c'est un peu... Non, l'origine du déclin de cette religion, bon, indépendamment des philosophes qui, dès le VIe siècle, ont joué un rôle évident, je crois qu'il faut bien voir que c'est tout simplement le contexte politique. C'est-à-dire...
VIe siècle avant notre...
VIe siècle, oui, avant Jésus-Christ. Oui. Et c'est surtout à partir, disons, du Ve siècle, lorsqu'il y a eu la guerre contre les Perses, la mort de Périclès en 429, ensuite la guerre du Péloponnèse, qu'il y a un déclin vraiment de la religion officielle, car les dieux ont trahi, ils n'ont pas permis à la Grèce ou de vaincre certains barbares ou de remporter des victoires. Et c'est là, on peut dire, c'est d'ailleurs une volonté d'épurer la religion qu'on trouve chez Platon. Et Platon pense que cette mythologie, il faut absolument l'expurger de tous ces aspects anthropomorphiques dont vous parliez tout à l'heure. Il faut avoir des dieux qui soient un petit peu plus sacrés. Et alors il accuse finalement les poètes, il dit c'est de leur faute, et il propose sa cité idéale. Sa cité idéale, c'est une cité où le centre politique ne serait plus l'agora, mais par exemple une acropole. Et lui dit ce serait très bien que ce soit Delphes. Mmh. La cité idéale, c'est justement l'ombilique du monde, Delphes.
Donc lui, il y croyait en revanche, effectivement, il voulait au fond réformer cette religion.
Il veut la réformer, c'est
ça. Elle n'a pas vraiment disparu, puisque justement, non, ceux qui ont succédé aux Grecs, les Romains, ont repris leur religion. Ils ont transformé le nom des dieux, Zeus, oui, est devenu Jupiter.
Bien, oui.
Mais quelle signification ça avait chez les Romains, la même que chez les Grecs?
Ah, pas du tout. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de religion gréco-romaine. Je refusais le titre pour cet ouvrage. Il y a deux types de religions. Mais les Romains étaient très ouverts. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le panthéon étrusque, ils ont accepté le panthéon grec, et ils avaient vraiment un sens de l'ouverture, du syncrétisme, pour employer le terme consacré, qui a fait que le panthéon s'est enrichi, et après de divinités orientales. Leur volonté, c'était l'extension de l'Empire, surtout avec le temps, bien sûr, pas au départ, et par conséquent, ils ont une ouverture d'esprit qui est à l'origine de la romanisation générale, j'allais dire de l'Occident, mais aussi de l'Orient.
Est-ce qu'il y a des gens encore pour célébrer les dieux grecs? Il n'y a pas une secte comme ça qui
Non, mais personnellement, je suis une adepte.
Vous êtes une adepte.
Oui, moi je suis une fidèle. Mais vous savez, je vais vous dire pourquoi. Derrière, il y a le mythe. Et vous, on a vu le film d'Orphée, vous avez vu les titans, pourquoi
oui,
on s'intéresse encore? Derrière, vous savez, il y a le mythe et la religion, et je crois qu'il faut bien distinguer les deux. Mais les deux font référence au divin. Et le mythe qui est derrière la religion grecque, c'est une forme poétique, c'est une forme merveilleuse, imagée, comme vous l'avez très bien démontré tout à l'heure. Eh bien, ça veut dire que le mythe donné disait quelque chose du divin sans retirer la part de mystère. Il y a un mystère derrière ces dieux grecs. Et c'est certainement la raison pour laquelle le mythe, plutôt que la religion grecque, a survécu jusqu'à nos jours. Et d'ailleurs, vous voyez, dès l'Antiquité, les artistes s'en servaient, je pense bien sûr aux Traginiens comme Eschyle, Euripide pour leur création, les artistes s'en servaient pour leurs vases, les généraux ou les pédagogues pour les foules. Eh bien, on en est là, et actuellement, pourquoi on en parle encore? Eh bien, vous avez eu les psychanalystes qui ont voulu avoir une lecture personnelle des mythes, les structuralistes et Lévi-Strauss. Oui. Eh bien, Lévi-Strauss, le premier, qui a introduit aussi une lecture structuraliste des mythes, ce qui prouve bien qu'ils sont toujours d'actualité, à mon avis.
Et peut-être même qu'ils ont de l'avenir, avec une vestale comme vous pour nous parler des
mythes. Ah, moi, là, je pense que ça serait... Vous me mettez une étiquette un peu romaine, mais enfin bon.
Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un petit livre consacré aux religions grecques et romaines et publié chez Armand Collin dans les collections Synthèse. Merci Odile Vatel. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Choc des Titans de Desmond Davis avec Laurence Olivier et Ursula Andress, disponible en cassette chez RCV Vidéo. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Pierre Rayon et Étienne Mishka. Documentation, Anne Weinfeld et Virginie Bloch-Lenné. Revue de texte, Stéphanie Duncan. Une réalisation de Anne Comilac.
Une émission de Patrice Gélinet.
Merci Patrice Gélinet. Je rappelle que nous écoutions une émission précédemment diffusée le 8 mai 2001. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une nouvelle diffusion, ce sera les procès de Moscou. Vous écoutez France Inter, il sera dans quelques secondes, précisément 14h30, pour retrouver notre ami Chris.
Bonjour Chris. J'adore quand tu m'appelles notre ami Chris, c'est un petit côté cérémonieux.
Mais c'est vrai.
Est-ce que t'as les cheveux ébouriffés comme d'habitude?
Ils sont toujours ébouriffés.